Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Hugo pour Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on reçoit Eric Hugentobler, directeur de l'association Picardie Nature, pour parler de l'actualité de cette association qu'on pourra rencontrer sur le Salon Agora ce vendredi. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors est-ce que déjà on peut rappeler pour les auditeurs et auditrices, c'est la rentrée, hein, c'est bien de faire des petits rappels, qu'est-ce qu'est cette association, donc Picardie Nature, qui fête ses 50 ans cette année?
Tout à fait, on est né en 1970 sous un angle très ornithologique, puisqu'à l'époque ça s'appelait le GEPOP, le groupement d'études Picard des oiseaux... la dernière. Et puis c'est assez rapidement devenu Picardie Nature. Aujourd'hui, l'association, c'est plus de 600 adhérents, 200-250 bénévoles actifs, naturalistes essentiellement, qui sont des passionnés de chauves-souris, d'oiseaux, d'insectes, de papillons, et qui vont faire des suivis de ces espèces sur le terrain, vont les étudier. C'est aussi un aspect un peu moins reluisant, mais c'est aussi des bénévoles qui font des actions judiciaires pour protéger la nature, des dépôts de plaintes, encore récemment contre une grande entreprise qui a pollué l'ESCO au mois de mai. Donc voilà, ce genre de choses, d'une association de protection de la nature qui membre de France Nature Environnement, donc une des plus importantes ONG de protection de la nature ici en France.
Alors les dernières fois qu'on vous a vu sur cette antenne, c'était pour parler des enquêtes participatives que vous organisez. Donc chaque mois, elle est intitulée « Un mois, une espèce ». Et donc il y a une plateforme collaborative, participative, sur laquelle les Picards peuvent donc poster leurs observations, images, leurs photos.
C'est ça, on a essayé de cibler différentes espèces de différents groupes de faune qu'on peut voir au bout de son jardin. En ce moment, c'est la coccinelle à 22 pois qui est de couleur jaune. C'est pas son âge, hein, c'est une belle croyance d'enfance, mais non, c'est plutôt lié à la biologie de l'espèce et le point noir sert à l'insecte à accumuler de la chaleur. Donc, en général, plus on monte vers le nord, plus il y a de points ou plus ils sont gros. Je sais pas pourquoi. Donc en ce moment, c'est cette coccinelle. Et puis l'idée de cette enquête participative, c'était d'associer les enfants à ce qu'on appelle la taxonomie, donc le classement des espèces. On est en lien avec les bibliothèques d'Amiens Métropole, qui chaque mois propose une sélection de livres pour les enfants plutôt de primaire. Autour de ces insectes-là, parce qu'on a des fois des très bons livres pour enfants qui malheureusement sont faux scientifiquement. Voilà, c'était histoire d'élargir un peu la connaissance des insectes qu'on connaît, des insectes et des animaux en général. Parfois on les connaît mal, on les identifie mal, et puis surtout on a beaucoup de préjugés ou de fausses croyances sur certaines espèces.
Alors j'invite les auditeurs et auditrices à aller notamment sur votre page Facebook pour remonter un peu les différentes enquêtes que vous avez lancées.
La sauterelle verte, oui. Le cornu, pardon, qui est une abeille sauvage, différentes espèces qu'on peut voir ici facilement.
Et je trouve ça intéressant parce que ça force aussi à ouvrir les yeux quand on est dans son jardin, quand on est dans la nature. Et même des espèces, je ne soupçonnais pas leur présence dans la région en fait, donc c'est super intéressant je trouve.
Merci.
Et alors donc justement je parlais des réseaux sociaux, c'est bien, en plus vous postez pas mal sur les réseaux sociaux, et donc il y a bien sûr la photo de l'espèce en question, avec des petites infos aussi, des petites anecdotes, donc c'est super, super intéressant, super ludique.
On a été jusqu'à chercher le nom en Picard des fois pour essayer avec certains bénévoles de retrouver certains noms, voilà. Petit clin d'œil à la fois culturel et environnemental.
Alors donc, je le disais, cette année, vous fêtez vos 50 ans. Alors, j'imagine qu'il y avait des actions qui étaient prévues. Bon, cette année, c'était pas une super année pour fêter les anniversaires. Nous, on a eu de la chance, Radio Campus Amiens, on a fêté notre anniversaire juste avant le confinement. Et alors, qu'est-ce qui est prévu justement pour les 50 ans? Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui va être fait?
Il y avait déjà donc cette opération à moi une espèce. Et puis, on avait prévu différentes choses qui, du coup, sont réduites comme beaucoup d'autres actions. Et puis on a des choses qui vont du coup s'organiser fin septembre autour du centre d'hébergement de Durie, donc au sud de d'Amiens, en lien avec cet espace de la ville d'Amiens. Donc on a prévu des conférences, des rencontres, notamment le samedi, le mercredi après-midi, et puis des soirées le samedi soir autour des mammifères. qu'on peut observer, donc les chauves-souris, les papillons de nuit, et puis voilà. on est en train de finaliser les choses, on est un peu inquiet parce que voilà, le département du Nord vient de passer en zone rouge, la région parisienne l'est, donc on se demande si on ne va pas être confronté encore malheureusement à des contraintes.
Alors vous évoquiez la chauve-souris, c'est un animal qui est quand même assez méconnu et qui suscite pas mal d'inquiétudes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de la chauve-souris qui, dans le contexte sanitaire actuel, fait un peu peur?
Déjà c'est un animal fascinant parce que c'est le seul mammifère volant. C'est un mammifère à sang chaud, donc ça veut dire que la mère allaite ses petits. C'est beaucoup beaucoup d'espèces dans le monde entier, des espèces très différentes. En Picardie, on a 11 ou 12 espèces, j'ai un doute, qui sont toutes insectivores. Donc c'est vraiment un animal, en plus parapluie, ce qu'on appelle parapluie dans la chaîne alimentaire, qui est très important, qui nous débarrasse des moustiques par exemple. Et c'est un animal qui vit essentiellement la nuit. Alors selon les espèces, il y en a qui vivent plutôt à la tombée de la nuit, celles qu'on voit voler facilement dans Amiens par exemple, qui en général sont plutôt des pipistrelles communes, qui est la plus commune, et puis d'autres qui vont vivre plutôt plus tard, au petit matin, au moment où le soleil se lève. Certaines vivent dans des carrières, sous la citadelle par exemple, d'Amiens, il y a des chauves-souris qui hibernent dans les souterrains de la citadelle. D'autres qui vivent dans des arbres, voilà. Donc c'est un animal méconnu avec des croyances loufoques qui datent parfois du Moyen-Âge. Il n'y a pas de chauve-souris qui mordent intentionnellement en Europe, il n'y a pas de vampires, c'est une espèce qui existe mais qui est plutôt en Amérique du Sud. Il y a des espèces qui mangent des fruits, la très grande qu'on voit des fois en photo, qu'on a dans quelques zoos en Europe, qui vient des Philippines notamment.
D'accord.
Et alors après, oui, c'est une espèce qui est mammifère, donc proche de nous, comme d'autres animaux, qui peut transporter des virus. Certaines chauves-souris font l'espace de quelques 10-12 grammes, donc c'est minuscule, et qui a une capacité de résistance et d'adaptation à son environnement qui est assez phénoménale, qui est un vaste sujet d'étude pour les scientifiques. Voilà, donc il y a des méconnaissances du grand public, mais aussi on ne connaît pas bien pourquoi ce mammifère a volé, comment il vole, voilà, c'est tout un tas d'interrogations qui sont... auxquelles on n'a pas les réponses.
J'imagine que c'est aussi une des missions de l'association de déconstruire tous ces préjugés qu'il y a sur les animaux, les espèces. Il y a encore beaucoup de fausses informations qui persistent.
La légende urbaine où la chauve-souris s'accroche dans les cheveux, par exemple. Ça, c'en est une de légende. Le fait qu'on dise que les chauves-souris peuvent porter la rage, c'est... deux espèces potentiellement ici qui peuvent la porter et les cas sont extrêmement rarissimes. Nous, on fait un suivi, on a une mission avec l'Institut Pasteur. Quand il y a des cadavres de chauves-souris, on les récupère, on les passe au congèle pour voilà, les geler la bestiole et après D'accord. On les envoie à Pasteur pour des analyses plus poussées et poursuivre justement cette maladie. Donc on n'a pas de cas depuis très très longtemps.
D'accord. Alors on évoquait en quelques mots depuis le début de l'interview le confinement. Alors comment l'association a vécu justement cette période de confinement et même l'après-confinement, la période de l'été où vous mettez en place en général un certain nombre d'actions?
Déjà ça a été compliqué pour nos bénévoles parce que la plupart sont des naturalistes donc ils veulent aller sur le terrain et le confinement est arrivé mi-mars, donc avec le printemps, l'éveil de la nature, là où la nature explose. Donc certains bénévoles ont rongé leurs freins, et puis d'autres ont mis en place des actions. J'observe la nature depuis ma fenêtre, donc c'était assez sympa. Il y a eu plein mal de choses qui ont circulé, avec des fois des choses assez intéressantes de Milan, donc un rapace qui passait au-dessus de certaines communes très urbaines, ce qui est plutôt rare, donc le confinement aidant, peut-être moins de circulation. On a vu plein d'articles, on a été pas mal sollicités sur ces histoires de est-ce que la nature reprend sa place. Ben non, c'est sa place en fait, c'est nous qui la suroccupons peut-être. Et puis en fait, est-ce que ça a été positif? Ça, on n'a pas de réponse. Peut-être qu'on le verra a posteriori, parce que ne serait-ce que parce que dans les villes comme Amiens, on a peu tondu ou tondu très tardivement. Du coup, les herbes ont pu pousser, les fleurs ont pu fleurir et les insectes ont trouvé de quoi manger. Donc du coup, si les insectes ont de quoi manger, ben derrière, la chaîne alimentaire a de quoi manger, donc peut-être que l'année prochaine, on verra certaines espèces qui se porteront un peu mieux. Ça, c'était l'aspect interrogatifs qu'on a, on n'a pas de réponse. On a suragi aussi parce qu'on était très inquiet de certaines idées de vouloir javeliser les rues, qui est un non-sens à la fois économique et surtout était un non-sens sanitaire. Ça avait a priori aucun intérêt, aucun impact, mais sauf que c'était, on était vraiment dans l'agir, on était dans un entre-deux-tours d'élections municipales, peut-être, je ne sais pas. il fallait faire, mais en fait, toutes les études, etc., montraient que finalement l'effet était nul sur la santé et surtout catastrophique pour l'environnement. Et si c'est catastrophique pour l'environnement, ça va l'être pour l'homme par une série de choses en cascade. Donc c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis après, la grosse action médiatique de l'association, mais qui est aussi très très prenante en termes d'énergie et de temps, c'est la question de la surveillance estivale des phoques en baie de Somme, puisqu'on a deux espèces de phoques, le phoque vaumarin et le phoque gris ici, qui sont les plus grosses colonies en France, mais qui sont très très... Ben voilà, il y a l'ordre de 600-700 phoques en baie de Somme. Par rapport à l'Écosse, à la Norvège, à l'Irlande, c'est rien du tout en fait. Mais pour resituer dans un espace plus large, je le dis d'autant plus qu'on a posé des balises encore l'an dernier sur des phoques, balises GPS, et certains phoques naviguent énormément. Il y avait un phoque gris balisé, quelques jours après, il était en Écosse.
D'accord. Voilà, ouais.
Balisé en baie de Somme. Donc on n'a pas les phoques de la baie de Somme, on a des phoques en baie de Somme. La sémantique a du sens.
Et d'ailleurs, historiquement, la colonie vient de...
Viendrait plutôt du nord, oui.
Oui, c'est ça.
Elle descend, elle redescend, elle occupe les espaces que l'homme lui a plus ou moins laissés, ou en tout cas, il ne le chassait plus, donc il a pu réoccuper des espaces. Et s'il est là, c'est qu'il y a des ressources alimentaires. Et donc oui, cette surveillance estivale, c'est 50 bénévoles, c'est 1600 heures de bénévolat en 2019, donc c'est quand même conséquent sur un délai très court de 3 mois, qui viennent, qui sont présents notamment au Hourdel et qui font du conseil, de la prévention auprès du grand public, en disant attention, là-bas il y a des mères petits, puisque chez les phoques c'est les mamans qui s'occupent des petits. N'approchez pas, vous pouvez les observer, on vous met à disposition des jumelles, des longues vues, regardez, on vous donne des infos sur la biologie de l'espèce, pourquoi elle est là, pourquoi elle se reproduit à ce moment-là, pourquoi le petit est tout seul, non, il n'est pas abandonné, la mère est partie à se nourrir, elle revient, n'approchez pas parce que vous allez déranger. Et cette année, voilà, situation d'indice sanitaire, problématique d'hébergement pour nos bénévoles, puisqu'on les héberge, comment gérer les longues vues, les lunettes, les désinfecter, pas les désinfecter, c'est du matériel très fragile. On a préféré pas mettre en place cette surveillance estivale et on a été confronté a priori des échouages plus importants que les années précédentes.
D'accord.
Donc des séparations mère-petit, des interventions très fortes à la fois de nos bénévoles qui ont passé un temps fou, je pense à Christine ou à Simon pour les citer, les remercier, à Corinne aussi. Et puis des bébés phoques séparés de leur mère qu'on a envoyés vers des centres de soins avec qui on travaille, mais il n'y en a plus en Picardie. Donc c'est la LPA à Calais, le chêne du côté de Rouen, qui ont accueilli beaucoup de phoques de chez nous. Voilà, c'était on avait un centre de sauvegarde il y a quelques années qu'on a dû fermer par faute de moyens économiques parce que c'est des coûts conséquents. On n'avait plus de soutien des collectivités locales, conseil régional notamment. Et ben voilà, donc on travaille avec des associations dans d'autres régions, enfin en tout cas Calais c'est la même région maintenant, mais dans d'autres départements, et puis on a essayé de faire ce qu'on pouvait et on a été confronté en effet à des problématiques de gens qui non seulement dérangent l'espèce en s'approchant très près à quelques mètres et en plus se mettent en danger parce que la baie de Somme c'est un espace naturel, c'est un espace dangereux et on a encore eu des bénévoles qui à un moment ont rappelé les sauveteurs en disant attention là, il y a des gens qui s'engagent dans la baie et donc l'hélicoptère arrive quoi, c'est l'inconscience du grand public peut-être, enfin d'une partie du grand public.
Vous parlez des bénévoles, vous en avez de nombreux, mais j'imagine que l'occasion d'un salon comme Agora, c'est aussi de faire parler de l'association et pourquoi pas de trouver de nouvelles personnes pour agrandir vos rangs. C'est ça un peu l'enjeu de la rentrée
Oui, c'est ça, c'est d'être présent à Agora, parce que déjà c'est un chouette salon, il y a une très bonne organisation de nos amis de la Maison des Associations. C'est le moment de voir les copains des autres associations, parce qu'avec les voisins on discute toujours, donc ça c'est l'aspect sympa. Et puis surtout de présenter ce qu'on fait, de dire qu'on n'est pas qu'une association de spécialistes naturalistes, de gens passionnés par telle espèce de coccinelle ou de papillon, parce qu'on en a, mais qu'on a aussi des choses accessibles à tout à chacun. Voilà, moi, une espèce, on a un exemple. On fait des animations. On a fait récemment une animation à Saint-en-Amiénois sur une mare, et on va continuer avec cette commune. On fait des interventions dans les écoles, dans les centres de loisirs. Donc voilà, c'est aussi pour montrer qu'il y a d'autres choses et que ben, connaître la nature, c'est important. Et sensibiliser, c'est aussi une mission pour nous fondamentale.
Et donc on vous retrouve ce vendredi sur le Salon Agora, donc autour de la place de Wailly. Et en attendant, on peut se rendre bien sûr sur les réseaux sociaux, sur le site de Picardie Nature.
La page Facebook et puis le site internet qui est très dense, il y a beaucoup de choses, un peu vieillot, mais voilà, il y a énormément d'informations. Et puis notre base de données qui s'appelle clicknat.fr où on retrouve quasiment 5000 fiches espèces d'animaux présents ici. Avec des choses très détaillées parfois, des choses un peu moins, on a des cartes de répartition, enfin, on peut vraiment voir des évolutions sur plusieurs années et qui montrent bien cette connaissance de cette biodiversité qui nous entoure.
Eh bien, merci Eric Hugentobler.
Merci à vous.
Et je rappelle que vous êtes directeur de l'association Picardie Nature.